Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Et l'info avec Amandine, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, très bel anniversaire donc. Et bonjour à tous. À la une, l'hommage national à Belmondo. Et déjà un peu de monde, vous le verrez, aux Invalides. Une séquestration et de nombreuses questions en Charente-Maritime. La gendarmerie avait visiblement été alertée à plusieurs reprises. Vous entendrez aussi l'appel déchirant d'une petite fille coincée à Kaboul. Et puis la pilule, elle, sera bientôt gratuite pour les 18-25 ans. Juste après le journal, Pascal, on échange, on décrypte, on débat comme chaque jour avec deux sujets.
Exactement, 1 million d'emplois, on l'a dit tout à l'heure, non pourvus en France. Et ça, c'est un témoignage que vous avez peut-être entendu ce matin dans la matinale de ce restaurateur qui propose 1700 euros net pour 35 heures par semaine et qui ne trouve personne. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, ce fourgon de police qui est attaqué dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonne.
La police est-elle impuissante dans certains quartiers? C'est notre question du jour sur RTL. Vous pouvez continuer à voter. La météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Encore 4 départements en alerte orange.
Oui, pour orages et pluies, inondations à partir de 16h, ça concerne l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Sinon, dans l'ensemble, c'est un ciel bien chargé sur tout le pays avec quelques averses localement orageuses cet après-midi, notamment entre les Pyrénées et le Nord-Est. Le tout sous des températures en baisse, mais ça reste doux, de 20 à Brest à 29 à Marseille, 26 à Toulouse et 27 à Paris et Lyon.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Ce sera sans aucun doute l'un des temps forts de l'hommage national qui sera rendu cet après-midi à Jean-Paul Belmondo. La musique du professionnel jouée par la garde républicaine, tout ça dans la cour des Invalides. Bonjour Mourad Jabari.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour RTL et il y a déjà un peu de monde.
Oui, ce sont les fans inconditionnels de Bebel. Certains arrivés devant ces immenses grilles dorées en fer forgé vers 5h du matin. Ils espèrent faire partie des 1000 chanceux qui vont pouvoir assister à cette cérémonie. Christian veut lui rendre hommage aujourd'hui à la personnalité de l'acteur Jean-Paul Belmondo, un homme simple et accessible.
C'est un monstre du cinéma, ça c'est sûr. Ce qui était très appréciable chez lui, c'est qu'il était très proche de son public. Il refusait rarement une photo, rarement un autographe. C'est ça qui était exceptionnel avec lui. Quoi.
Alors pendant cette longue attente, évidemment, on discute, on partage des anecdotes, des photos, on répond à la question « Et toi, quel est ton film préféré, Gauthier ?» Lui a toujours aimé le séducteur, le macho bagarreur, jamais à bout de souffle pour mettre un bourre-pif.
Ah, le flic qui frappe plus fort, qui est plus intelligent, qui a peur de rien. Les cascades, le professionnel. Il aurait pu courir un peu plus vite et prendre l'hélicoptère, mais il a plus peur de la mort depuis le départ, il le dit. Il n'y en a plus d'acteurs comme ça. Regardez autour de nous, il y a toute génération.
Avec cette file qui s'allonge maintenant depuis plusieurs minutes.
Mourad, cette cérémonie, elle débute à 16h30, dans 4 heures maintenant. À quoi va-t-elle ressembler ?
Une cérémonie solennelle et populaire. Le cercueil de Jean-Paul Belmondo, couvert d'un drapeau tricolore, sera entreposé dans la cour d'honneur des Invalides, entouré de sa famille, évidemment, y compris de Nati, son ex-femme, qui accompagnera Stella, leur fille de 18 ans. La cérémonie débutera par un éloge funèbre du président Emmanuel Macron, suivi d'une minute de silence, puis de la Marseillaise. Victor, entouré des autres petits-enfants de l'acteur, devrait aussi dire quelques mots devant quelques centaines de personnes invitées à la cérémonie. La famille du cinéma, comme on dit, avec Jean Dujardin, Guillaume Canet par exemple, mais aussi et surtout son ami avec qui il a échangé quelques coups à l'écran, Alain Delon. Des extraits de films, de répliques cultes seront diffusés aussi sur les 2 écrans géants installés à l'extérieur des Invalides pour ne pas oublier, pour se remémorer le sourire, la gueule du professionnel, de Bob Sinclair, de Pierrot le Fou, de la légende du cinéma, Jean-Paul Belmondo.
L'information que vous donnez est importante. Alain Delon serait présent. Je sais qu'il est annoncé. Et puis l'autre information qui est intéressante, c'est qu'il y aura un film. L'Élysée a commandé un film avec les meilleurs extraits de films. Et ce film durera 23 minutes précisément et 49 secondes.
Ça a un sens ?
Non, mais on va voir beaucoup de Belmondo cet après-midi aux Invalides.
Merci. Merci beaucoup Mourad, vous étiez en direct des Invalides et on va vous retrouver bien sûr tout au long de cet après-midi puisqu'elle sera à suivre cette cérémonie en fil rouge bien sûr sur RTL. Direction pour l'heure le village de Bignet en Charente-Maritime, c'est là qu'une jeune femme de 25 ans a été séquestrée et violentée pendant 3 ans par sa mère et sa sœur. Alain habitait à 60 mètres de la maison, il explique avoir, avec au moins 2 autres personnes, alerté les gendarmes il y a un an.
Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait les trucs pareils? Ils auraient pu faire des trucs plus tôt. Plutôt.
Est-ce que vous entendiez des appels au secours ?
Oui, oui.
Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour.
Vous nous le confirmez, les gendarmes ont bien été alertés ?
Exactement, il y a près d'un an, élus, voisins se regroupent et alertent les autorités. Ils ont donc entendu des cris en provenance de la maison. Ils veulent agir, ne pas passer à côté de faits potentiellement graves. Francis Brunet est adjoint au maire.
On a fait le nécessaire auprès de la gendarmerie. Au mois d'octobre, la commune a fait une lettre avec une main courante avec tous les voisins. Une fois qu'on a fait ça, on est impuissant après. C'est très compliqué à gérer. Nous, on ne peut rien faire.
Les services sociaux vont eux aussi alerter le parquet de Saintes. Et suite à ces signalements, les gendarmes se seraient déplacés à plusieurs reprises au domicile des trois femmes. Personne n'ouvre, pas de cri non plus sur le moment. A priori, pas d'éléments concrets flagrants qui auraient justifié le fait d'enfoncer la porte d'un coup d'épaule. Il aura fallu l'évasion de la jeune femme pour mettre fin à ce calvaire. L'enquête menée désormais par un juge d'instruction pourrait mettre en lumière d'éventuels manquements. Les deux femmes, la mère et la sœur, ont été incarcérées. Elles sont mises en examen pour séquestration criminelle.
Philippe de Maria, correspondant d'RTL dans le Sud-Ouest. Merci à vous. À Paris, le deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre, l'audience a repris il y a quelques minutes, suite de l'appel des parties civiles. Et on suivra bien sûr de près l'attitude de Salah Abdeslam après les provocations d'hier. Après avoir lancé être un combattant de l'État islamique, l'accusé a dénoncé ses conditions de détention, reprochant à la justice française de traiter les accusés, je le cite, comme des chiens. Écoutez la réaction de Dominique. Elle a perdu ce soir-là son fils Victor.
Moi, personnellement, en tant que mère d'un jeune garçon de 24 ans assassiné à la Belle Équipe, évidemment, ça me fait mal. En tant que vice-présidente d'association, j'ai deux casquettes ici, on n'en attendait pas plus. Ni plus, ni moins, on n'en attend rien, en fait. C'est un assassin, on aimerait qu'il reconnaisse son crime. Bon, mais il ne le fera pas, et on ne veut pas lui être redevable. Et puis, on a tellement de mépris pour lui que, finalement, ça ne nous touche pas tant que ça. C'est lui qui nous a blessés, c'est lui qui nous a meurtris, et donc on n'en attend rien du tout.
Un témoignage recueilli pour RTL par Anne Le Hénaff. Autre témoignage à retenir ce midi, cet échange bouleversant, un échange entre un papa et sa fille. Lui, ancien traducteur pour l'armée française, est à Rennes. Elle a 10 ans et elle est bloquée en Afghanistan avec sa mère et les deux autres enfants du couple.
Getty,
oui,
comment ça va ma fille?
On est chez notre tante, on ne sort pas dehors. On a très très peur des talibans.
Et ta sœur et ta mère et ton frère aussi, ils sont toujours à la maison, ils ne sortent pas?
Non, ils ne sortent pas parce qu'on a peur. On ne peut pas aller à l'école.
Ça te manque?
Oui.
Et dans la journée, vous faites quoi à la maison, les enfants, avec les autres?
Rien de spécial. C'est long, c'est trop long.
Est-ce que papa vous manque?
Oui, il nous manque trop.
Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton papa là?
Qu'il nous sorte vite.
Getty?
Oui, oui. Pleure.
Échange, appel déchirant recueilli pour RTL par Patrice Gabard. Au total, comme Getty, cette petite fille, ce sont 45 Afghans ou franco-afghans qui sont toujours bloqués à Kaboul, parmi eux 24 enfants.
Agnès Buzyn est convoquée demain par la Cour de justice de la République.
On l'a appris il y a quelques minutes, l'ancienne ministre de la Santé pourrait être mise en examen dans le cadre de sa gestion de la crise sanitaire. Et puis c'est une info RTL, Benoît Hamon quitte la politique, candidat à l'élection présidentielle de 2017. Il va prendre la tête de l'association Singa, une association d'aide aux migrants, des réfugiés climatiques notamment. Peggy nous le disait, 4 départements restent en vigilance orange, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers et le Tarn-et-Garonne, alerte aux orages et aux risques d'inondations. Hier, c'est à Agen qu'il a le plus plu, l'équivalent de 2 mois de précipitations en 3 heures seulement. C'est un record. Heureusement, aucune victime. Et l'heure est désormais au nettoyage, Patrick Tégéraud.
Les motopompes municipales sont en train d'épuiser les caves. On a sorti les raclettes et les balais. Et puis on se rend compte aussi de l'ampleur des dégâts. Moustapha est littéralement entré chez lui hier soir à la nage. Sa rue était devenue un lac.
Inondé à 1,50 m. Grâce à un pompier, il m'a pris entre ses bras et il m'a ramené jusqu'à chez moi pour rentrer. De toute façon, c'est que du matériel. Hein. C'est toujours se dire ça.
Sa voisine Chantal a déjà fait le tri.
Voilà tout ce que je perds. Beaucoup de papiers, beaucoup de souvenirs, des photos. Tout, tout, tout.
Michel est très ému et en colère.
Elle l'a mené, tout neuf, grillé, allez.
Et là, vous avez fait un peu l'inventaire de ce que vous avez
perdu? Ah non, j'ai pas eu le temps de faire l'inventaire, parce que je constate que à 90%, tout est mort. Ma voiture, elle allait avoir 30 ans le mois prochain. J'en prenais soin comme c'est pas possible, la pauvre. Regardez les murs, jamais ça a été comme ça, jamais.
Une catastrophe inédite, en effet, qui n'a touché principalement que les garages et les caves de ce quartier du Vieil Agen.
Patrick Tégéraud, Agen pour RTL.
La campagne présidentielle arrive peut-être et c'est l'heure des cadeaux, Amandine.
avec cette révolution. La pilule bientôt gratuite pour toutes les femmes de moins de 25 ans. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a annoncé ce matin. Ce sera le cas à partir du 1er janvier prochain. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Ça fait des années et des années que les associations le réclamaient.
Oui, car la contraception n'était gratuite que jusqu'à 18 ans. Et selon les associations, beaucoup de femmes, une fois majeures, interrompaient leur contraception car elles ne pouvaient plus se la payer. Sarah Durocher, coprésidente du planning familial.
Je vais vous prendre un exemple. Une jeune femme qui a 17 ans, qui prend un anneau contraceptif, à partir de 18 ans, il n'y a plus de prise en charge et ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale surtout. Et alors que ça lui convenait très bien, tout d'un coup, elle va plus pouvoir y accéder par faute de moyens, qui fait qu'elle pourrait avoir des grossesses non désirées, par exemple, ou en tout cas choisir un autre moyen de contraception qui lui conviendrait pas forcément.
Résultat, ces dernières années, les autorités de santé constataient un recul de l'usage de la contraception par les plus jeunes. Selon l'assurance maladie, le remboursement jusqu'à 25 ans concernera environ 3 millions de jeunes femmes à partir donc du 1er janvier prochain.
3 millions de jeunes femmes, ça n'est pas rien. Merci beaucoup Agathe. Agathe Landais pour RTL.
Et vous avez peut-être vu ces images. Image effrayante, un fourgon de police qui est attaqué par des voyous. Les policiers sont sous le feu de tirs d'une poignée d'individus, des tirs de mortier. A priori, la voiture recule, la porte latérale a explosé. Eh bien, ça se passe en France, dans la cité des Tarterets, là où le ministre de l'Intérieur expliquait il y a quelques jours qu'il n'existait pas de zone de non-droit. Ça va être notre premier débat dans une seconde. A tout de suite.
En ligne. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
L'image a fait le tour des réseaux sociaux, des chaînes d'infos aussi. Ce fourgon de police contraint de faire marche arrière hier soir dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Alors que s'est-il vraiment passé? Les policiers ont-ils vraiment été chassés? C'est le premier débat d'RTL Midi. On va s'arrêter d'abord avec vous sur les faits. Guillaume Chies, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, je le rappelle, journaliste au service police-justice d'RTL. La scène, elle a eu lieu hier, donc en fin d'après-midi.
Oui, sur les coups de 18h40, une trentaine de jeunes regroupés dans un parc aperçoit un fourgon de police. Ils l'encerclent, jettent un premier cocktail Molotov pour immobilisé, puis deux ou trois autres ensuite. Il y a également des tirs de mortier. Les agents de la BST, la brigade spécialisée de terrain, sont obligés de faire marche arrière pour échapper à cet assaut. En manœuvrant, ils percutent deux véhicules qui étaient stationnés là, arrachent la portière de leur fourgon. La scène est brève et heureusement, il n'y a aucun blessé.
Et les tirs qu'on entend, ce ne sont pas des tirs d'armes à feu.
Eh ben ça, c'est un des points qu'il va falloir éclaircir. En fait, un des policiers est formel. Il a aperçu une arme de poing, il s'est senti visé, il a entendu plusieurs détonations. Sauf que sur le fourgon, aucune trace de tir n'a été relevée et il pourrait tout aussi bien s'agir d'un pistolet d'alarme. Là, c'est l'enquête et notamment le visionnage des bandes de vidéosurveillance qui devra le déterminer.
Cette scène, Guillaume, elle intervient dans un contexte particulier après 6 jours de violence dans ce quartier.
Oui, alors pour être honnête, mis à part cet incident en fin de journée, la nuit dernière a été très calme au Tarteret. Idem pour la précédente et cela en partie grâce aux nombreux renforts policiers présents sur place. En revanche, et c'est vrai, depuis jeudi dernier, les Tarterets sont sous tension. Tout est parti de l'interpellation de deux jeunes pour des rodéos sauvages. Les policiers ont été pris à partie. Ils ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Dans la foule, une mère de famille a été atteinte par ces gaz. La vidéo a été filmée, relayée sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela qu'une partie du quartier s'en prend depuis aux forces de l'ordre.
Et c'est courant, ce genre de scène?
Alors, d'une telle intensité, se prendre 3 ou 4 cocktails Molotov, être contraint de reculer sous la possible menace d'une arme de poing, non, c'est pas courant. C'est loin d'être une première en France, mais c'était pas courant. En revanche, les policiers en Essonne et partout en France, ceux-ci sont quotidiennement pris à partie. Ils essuient très régulièrement des tirs de projectiles, heureusement la plupart du temps sans conséquences graves. Mais c'était déjà le cas il y a 10 ans, me disait ce matin un haut gradé du département.
Merci beaucoup Guillaume. Guillaume Chies du service police-justice d'RTL.
Michel Noyer est avec nous, il est premier adjoint au maire du Parti communiste français de Corbeil-Essonnes. Bonjour Monsieur Noyer.
Bonjour monsieur.
Lorsque vous voyez cette scène qui rappelle une scène de Far West et immédiatement on pense à une attaque de diligence, comment vous réagissez?
Écoutez, ces faits sont absolument inadmissibles. C'est un véritable guet-apens préparé par des individus masqués qui se protégeaient dans un parti boisé et donc... C'est un guet-apens. J'espère que les services vont pouvoir retrouver les auteurs de ces gestes, de ces actes inadmissibles, totalement condamnables. Et après, ce sera la justice de faire son travail. Voilà ce que je peux dire sur ces faits qui ont été relatés par votre journaliste.
Oui, Michel Noy, justement, on le disait, cette scène, elle n'est pas courante, mais ce n'est pas non plus une surprise, nous disait Guillaume Chies. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Comment vous l'expliquez?
Écoutez, l'été... À Corbeil-Essonnes a été calme. D'ailleurs, le directeur départemental de la police l'avait remarqué dans l'Essonne, et en particulier à Corbeil-Essonnes, l'été a été calme, peut-être du fait des nombreuses initiatives et activités que nous avons proposées pendant les deux mois d'été. L'attention sur le quartier provient d'un fait précis qui a été également relaté par votre journaliste, l'émotion qui a été partagée par de nombreux habitants, enfants, qui ont vu une maman touchée par un jet de gaz, les mamans qui ont également été solidaires de cette femme, de cette maman, et puis les habitants. Donc il y a eu une tension liée à cette interpellation et à ce jet de gaz en direction des mamans, mais les faits d'hier sont totalement indépendants de cette émotion. J'ai participé lundi soir à une réunion où il y avait bien 150 personnes et avec deux commissaires de police, et vraiment je les remercie d'être venus dialoguer. Et à l'issue de cette réunion, il y avait des perspectives de, pour continuer le dialogue avec les associations et la police, avec les jeunes, pour évidemment apprendre à mieux connaître les contraintes des uns et des autres. Donc je pose la question, qui a intérêt à ce que l'apaisement, le dialogue, les projets éducatifs ne voient pas le jour dans ce quartier? C'est toute la question que je pose, parce que ce n'est pas le quartier...
Ceux qui vendent de la drogue, parfois ils ont intérêt, et c'est des minorités actives, et on connaît le processus. Évidemment que ce sont quelques individus, mais ces individus, peut-être faut-il les mettre hors état de nuire dans les cités. Merci en tout cas, monsieur Noaille. Mathieu Vallet.
Évidemment que les auteurs de ces faits inacceptables, inacceptables, totalement condamnables, doivent être retrouvés et condamnés, évidemment.
Mathieu Vallet est avec nous et secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. C'est intéressant ce que dit M. Noaille, parce qu'il dit au fond que comme les policiers ont voulu intervenir sur un jeune qui faisait un rodéo, comme manifestement, si j'ai bien compris, la mère a empêché cette interpellation, ou en tout cas elle s'est mêlée de cette interpellation, donc les policiers ont dû réagir et ont fait usage d'un gaz lacrymogène, et c'est ce qui crée une émotion dans le quartier. Mais au départ, c'est un jeune qui fait du rodéo qui est dans l'illégalité, Mathieu Vallet.
Oui, tout à fait. C'est un jeune qui fait du rodéo. Nos collègues sont mobilisés pour lutter contre ces rodéos qui pourrissent le quotidien des gens. Et le problème de cette mère, c'est qu'au lieu de vouloir corriger la police, elle aurait dû corriger son enfant, en fait. L'éducation des parents, elle est vitale. Et malheureusement, les collègues, en plus de se situer à toutes les institutions qui ont baissé les bras, ils doivent aussi en plus faire maintenant l'éducation des enfants dont les parents parfois sont absents. Et la mère aurait bien fait de s'abstenir de s'immiscer dans cette intervention et plutôt d'aller au commissariat pour discuter avec l'officier de police judiciaire ou le commissaire de police, comme ils l'ont fait, comme le maire le rappelait.
Mathieu Vallet, sans doute, bien sûr, il y a une responsabilité des parents. On en parle régulièrement. En tout cas, c'est un sujet qui fait régulièrement débat. Est-ce que face à tout ça, dans ce contexte actuel, les méthodes aujourd'hui de la police sont les bonnes? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez les bons outils, les bonnes méthodes pour agir dans ces quartiers-là?
Bah, écoutez, il y a le Beauvau de la sécurité, il va être clôturé la semaine prochaine, probablement par le chef de l'État. On est en attente parce qu'il y a beaucoup de sujets, la formation, l'équipement, la captation vidéo, enfin bref, beaucoup de sujets dans lesquels les collègues sont impliqués quotidiennement ont besoin d'être améliorés. Après, il faut le dire sur votre antenne, nos collègues sont de plus en plus confrontés à des scènes de guerre. À Marseille, entre les dealers lorsqu'ils essuient des tirs de Kalachnikov ou des prises à partie, dans les quartiers avec des cocktails Molotov et des attaques, comme le disait Pascal Pro, en règle de diligence quasiment. Donc nos collègues aujourd'hui voient leur métier changer parce que au coin de chaque intervention, désormais, ils peuvent côtoyer la blessure.
Ah, Mathieu Vallet, manifestement, qui a été coupé. Si la ligne n'est pas rétablie à l'instant, on va peut-être marquer une pause et enchaîner avec le deuxième sujet du jour qui nous paraît toujours étonnant. Il y a 1 million d'emplois non pourvus en France. Et ce matin, j'écoutais dans la matinale un restaurateur qui propose 1 700 euros net. C'est pas rien, 1 700 euros net pour un jeune qui voudrait travailler, être serveur dans un restaurant. Bah, il ne trouve pas. Donc, on va revenir sur ce sujet. Je remercie évidemment Mathieu Vallet et Michel Noaille qui sont intervenus sur ce sujet. A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
J'offre un poste uniquement du matin de 9h30 à 16h30, du mardi au samedi, 1700 euros net, je trouve personne.
Ce témoignage, c'est celui de François qui a appelé ce matin le 3210. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure sur RTL. Ce restaurateur parisien expliquait avoir été obligé de rester fermé hier faute de personnel. François Gagnère, bonjour.
Oui, bonjour Amandine.
Vous êtes avec nous à nouveau ce midi et votre restaurant est à nouveau fermé, c'est bien ça?
Oui, nous sommes fermés. C'est pour ça que je suis avec vous en train de vous parler. Effectivement, on a fermé encore aujourd'hui pour soulager les équipes, l'équipe qu'on a actuellement, parce que sinon on va trop tirer sur la corde aussi, et c'est tellement tendu déjà.
Alors, vous proposez, je le disais, 1 700 € net pour 35 heures par semaine, vous nous avez dit en journée, hein, de 9h30 à 16h30, avec deux jours de repos consécutifs, les dimanches et lundis. Bon, j'ai pris ma calculette et calculé en gros, ça fait à peu près 12 € net de l'heure. Que vous disent les gens que vous recevez, que c'est pas assez bien payé ?
Bah déjà, il faut avoir les candidatures. On n'en a pas.
Enfin, personne n'est venu.
Personne n'est venu, ou alors c'est des gens qui sont pas qualifiés.
Ah oui, simplement. Il y a quand même des gens qui sont venus, rassurez-moi.
Oui, mais très peu. Hein.
Combien?
Voilà, vraiment, ça se compte sur. Je crois que j'ai eu 3 personnes depuis un mois.
Écoutez, je trouve. Ce matin, je vous écoutais, je trouve ça invraisemblable.
Vous l'expliquez comment, vous, François Gagnère, ça?
Ouais, je l'explique. Le problème, si vous voulez, c'est que notre métier, la restauration, a toujours été tendu. C'est pas d'aujourd'hui. Et avant Covid, c'était déjà tendu. Mais ce qui me rassure pas du tout, c'est que toutes les professions aujourd'hui recherchent. Moi, j'ai les livreurs de mes fournisseurs ils ne trouvent pas de livreurs. On trouve personne en comptabilité. Tous mes clients me disent on cherche du personnel. Donc il y a un vrai problème en France.
C'est 1 million d'emplois qui seraient non pourvus. Vous restez avec nous, François. On va accueillir avec nous Dominique Carlac. Vous êtes vice-présidente du MEDEF. Merci beaucoup de réagir dans RTL Midi. Comment vous réagissez au cas très concret de François Gagnère qui donc n'arrive pas à recruter?
Bah, le cas très concret de François Gagnère, il est représentatif de cas très concrets dans d'autres secteurs, comme il l'a dit. Hein. Aujourd'hui, 1 million d'emplois à pourvoir et plein de chefs d'entreprise qui cherchent des talents, qui cherchent à assumer et poursuivre leur activité. Et puis, d'un autre côté, plein de gens qui cherchent du travail. Donc, on a tout résumé avec ce cas-là. Il y a 4 problèmes. Il faut d'abord qu'un, les gens se trouvent. C'est-à-dire qu'entre l'offre et la demande d'emploi, il faut que les gens se trouvent. Et aujourd'hui, ils ne se trouvent pas assez
bien.
C'est
Pôle emploi qui ne fait pas le job je résume, mais...
Pôle emploi a vraiment beaucoup progressé, mais il faut vraiment qu'on travaille avec Pôle emploi pour améliorer cette capacité que les candidats rencontrent les entreprises. Qui, deuxième point, se correspondent. Monsieur Gagnère a soulevé un point, il dit « Moi, je trouve de temps en temps des candidats, mais ils ne correspondent pas à mon besoin. Ils n'ont pas le niveau de qualification requis. » Et là, il y a un vrai problème, c'est qu'on a un problème d'inadéquation entre les postes offerts dans plein de secteurs et puis les candidats qui ne sont pas formés à ces postes. Donc là, il faut qu'on réduise cette fracture entre les compétences requises et les compétences et les qualifications des candidats. Et puis après, il faut être attractif dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se plaisent quelque part et que les conditions de la collaboration plaisent aux deux parties, c'est-à-dire et à l'employeur et à l'employé. Alors là, il y aura bien évidemment une dimension salaire, mais pas que. On se rend compte que l'offre de M. Gagnère, travailler de 9h30 à 16h pour 1 700 € net, il n'y a probablement pas que la question du salaire qui fait l'attractivité du poste. Il y a d'autres choses qu'on peut améliorer sur le marché de l'emploi.
Ce que je ne sais pas, M. Gagnère, c'est que 1 700 € pour le travail que vous proposez, c'est plus que la moyenne ou c'est moins que la moyenne ?
Alors, il y a un vrai problème ici sur Paris, mais je crois que mes collègues en province sont dans la même difficulté que nous, c'est qu'on a des loyers très chers. Et les gens ont du mal à trouver, à se loger... des loyers décents sur Paris, donc ils sont obligés d'être loin, et c'est aussi pour ça que je propose un poste en continu, c'est-à-dire que
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. 1 700 €, c'est en clair, est-ce que
est-ce qu'il peut correct pour moi.
Oui, mais est-ce qu'il peut gagner plus dans un autre restaurant, c'est ça ma question.
Je suis pas certain. Après, ouais. Tout dépend de sa responsabilité. Moi, je cherche un chef de rang. Je cherche pas un maître d'hôtel ou un directeur de salle. Je cherche quelqu'un qui va maîtriser.
Chef de rang, 1 700 €.
Et juste un tout dernier mot, Dominique Carlac. Augmenter les salaires, on en entend pas mal parler ces derniers jours. C'est pas la solution, d'après vous?
C'est une des solutions. Je vous dis, ce qui peut être une attractivité pour un poste, l'attractivité d'un poste, ça peut être du salaire, mais pas que. Ça peut être aussi avoir des conditions de travail et puis une formation qui est adaptée pour bien faire son travail. Donc, c'est une des modalités. Les entreprises qui sont en tension de recrutement, certaines, elles offrent des salaires. Et c'est pas pour autant que les candidats y viennent. Mmh. Donc c'est une des modalités. Les entreprises qui pourront augmenter les salaires le feront. Celles qui sont en marge hyper contraintes, elles auront plus de mal, mais pourront offrir peut-être autre chose. Donc c'est une des modalités. Les entreprises qui pourront le faire le feront. Celles qui sont en marge tendue essaieront de faire autre chose.
Merci.
Je prends l'exemple.
Mais désolé, on a plus beaucoup de temps. Merci beaucoup, en tout cas, Dominique Carlac.
Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a l'émission jusqu'à 14h30. Oui. Donc, je vais jouer les Julien Courbet. Ça va être difficile.
Vous allez essayer de trouver quelqu'un pour François Gagnère.
Exactement. François Gagnère, vous allez rester avec nous jusqu'à 14h30, plus ou moins. En tout cas, vous n'allez peut-être pas rester en continu. Mais moi, ce que je propose, c'est de chercher, et on va bien trouver quelqu'un jusqu'à 14h30.
Anicia, rue du Cherche Midi à Paris, que les gens regardent s'ils veulent rendre compte aussi.
En plus, c'est une rue très chic. Oui. De Paris, c'est en plein 6e arrondissement. Il est quasiment 13h.